We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur We Do Biz et We Do Talk, notre émission spécialisée maintenant dans les rencontres et confidences régulières sur le monde économique. Créer et contribuer à ce qu'une entreprise se développe est une grande aventure vécue au quotidien par trois acteurs. Bien sûr, le manager, l'encadrement et les salariés. Chaque journée amène des décisions à prendre, qui sont, on le sait, parfois difficiles, pas toujours bien comprises, mais la plupart du temps indispensables pour assurer la pérennité de l'entreprise et sa progression sur ses marchés et activités. La mondialisation entraîne de son côté également de nouvelles manières de fonctionner, d'appliquer des décisions avec le plus large consensus possible, en ramenant l'humain au cœur de ce processus décisionnel comme catalyseur d'énergie et d'efficacité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Didier Durandy. Didier Durandy, auteur d'un ouvrage intitulé « Décider pour gagner », paru aux éditions d'organisation Erol. Alors, Didier Durandy, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, faisons les présentations si vous le voulez bien. Votre carrière est riche en expériences. Vous êtes tout d'abord passé par la Citibank de New York, puis la Société Générale à Londres pour créer ensuite le cabinet Grant Alexander, toujours à Londres, puis Paris, oui. Avant de vous consacrer à la recherche, la formation et au consulting en technique de décision dans 18 pays pour le compte de 150 entreprises, pas moins, vous voyez ? Donc très beau parcours. Alors première question, que vous ont procuré ces différentes expériences vécues ? Qu'en déduisez-vous et pourquoi ce livre ?
Eh bien, ce que j'en ai appris, c'est que les différentes façons de décider étaient interprétées différemment à tous les niveaux d'une entreprise, à tous les niveaux hiérarchiques d'une entreprise. C'est-à-dire pour le chef d'entreprise, une décision correspond à un certain objectif. Pour le management intermédiaire, la décision correspond à d'autres objectifs. Et pour les personnes qui exécutent, les salariés, ça correspond à d'autres objectifs et surtout à d'autres contraintes.
D'accord. Alors, en introduction de votre ouvrage, vous soulevez deux questions phares, je cite. La première, pourquoi des constats objectifs, des solutions évidentes, des projets vitaux ne sont-ils pas systématiquement transformés en décisions gagnantes? Ça, c'est une première question de fond. Et la seconde, pourquoi constate-t-on autant de baisses de pression, de déperditions d'énergie entre les niveaux hiérarchiques montants et descendants, entre les directions fonctionnelles et a fortiori entre les individus? Et ça, nous le constatons tous en tant qu'observateurs naturellement du monde économique, des entreprises, où on voit par exemple chez nous la maladie chronique de la réunionite aiguë, à laquelle on assiste partout. Alors, première question, les solutions, les projets vitaux, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas transformés en décisions gagnantes d'après vous ?
Parce que vous l'avez dit tout à fait au début, on est dans l'humain. Donc, en général, une décision est attaquée sur le plan technique. On a un problème à résoudre, on a un fonctionnement quotidien à assurer, on a un projet à lancer et à gérer. Et cette partie technique va commencer à rentrer dans l'entreprise par l'humain.
Voilà.
Les collaborateurs du chef d'entreprise, si c'est une décision haut niveau, les collaborateurs du directeur, du management, si c'est au niveau intermédiaire, et tout le monde va commencer à s'intéresser à la décision par son prisme. Ce qui fait que l'objectif commence à être dilué, il n'est pas le même pour tout le monde.
Et alors les blocages dans cette affaire-là, parce qu'il y en a donc automatiquement, qu'est-ce qui empêche justement ces transformations en décisions gagnantes ?
Le chef d'entreprise qui me dit « vous êtes responsable de l'agence de Lyon, on va la fermer parce qu'on va tout rapatrier à Paris », moi personnellement je vais lutter. Parce que je suis bien à Lyon, ma famille est à Lyon.
Voilà, vous y avez des avantages. Voilà.
C'est pas les avantages, c'est que j'estime que je fais du bon travail à Lyon, pourquoi on ferme Lyon ?
D'accord.
Donc, on rentre tout de suite dans la discussion sur la justification de la décision.
Ok.
Et d'où l'intérêt pour le décideur, et on reviendra sur la notion de décideur après, de bien expliquer son choix avant de me dire on ferme Lyon.
Et donc sur la seconde question, les déperditions d'énergie entre les niveaux hiérarchiques montants-descendants, à ce niveau-là, donc il y a aussi beaucoup de choses à dire.
Oui, là on est plus dans la communication. Et on est un petit peu, on est dans un système qui est un peu difficile en France. C'est la communication. On a du mal à communiquer. Alors, il y a mille façons d'interpréter cette situation. Le dialogue est difficile quand on est tous ensemble et qu'il n'y a pas d'enjeu. Dès qu'il y a un enjeu, le dialogue commence à être orienté. Il devient un petit peu stratégique pour chacun. Et si en plus vous rajoutez la connotation hiérarchique, alors le dialogue devient très très difficile.
Alors, vous dites aussi dans votre ouvrage, et ça m'a beaucoup plu, le plaisir de prendre une décision est souvent supérieur à celui de la mise en place elle-même. Ça me plaît bien. Tout se passe comme si on attendait que la décision se prenne d'elle-même plutôt que de devoir l'imposer. Et ça, c'est un constat que nous faisons aussi.
Alors là, on rentre dans des malentendus sur ce qu'est une décision. Dans le processus de décision, cette étape que je propose, le choix est au milieu. En fait, il y a trois grandes parties. Et il y a la préparation, il y a le choix et l'application. C'est pour ça que je l'appelle PCA. Bon. Beaucoup de décideurs, entre guillemets, que ce soit chef d'entreprise, cadre supérieur, manager, chef d'atelier, aiment exercer des choix. Mais le choix est une partie de la décision. C'est pas tout. Donc le choix, il faut bien le préparer pour qu'il soit cohérent. Mais aussi, il faut voir comment il va être appliqué. Sinon, l'équipe chargée de l'application va soit se démobiliser, soit lutter. Or, on a beaucoup de choisisseurs dans notre cher pays. On a beaucoup de trancheurs. D'ailleurs, on dit c'est lui qui va trancher, moi c'est pas moi qui tranche, tout ça. Mais le décideur au sens large qui va jusqu'à la fin de la mise en œuvre, il y en a un petit peu moins. Parce qu'on espère, comme vous venez de dire d'ailleurs Jacques, c'est que on espère que ça va se faire pas automatiquement, mais tranquillement. Et en fait, beaucoup de personnes attendent que le choix soit fait pour commencer à s'amuser avec ce choix. Et eux vont être décisionnaires du résultat final, finalement, en l'orientant, le choix.
C'est pour ça que vous dites « toute décision se situe dans son environnement ».
En fait, oui.
Hein, entre l'accélération du système, la complexité technologique, la complication des organisations, des approches, tout ça contribue à aussi.
Oui, parce qu'on décide pas tout seul. Dès qu'on décide, on influe, on oriente l'environnement dans lequel on est. Voilà. Aujourd'hui, excusez-moi, je vous coupe juste un point important. Aujourd'hui, la notion la plus importante, c'est la notion juridique dans la décision. L'environnement passe par le juridique, conservation d'énergie, tout est juridique. Donc une décision qui peut être excellente sur le plan financier, sur le plan commercial, peut ne pas être applicable pour des raisons environnementales, et cela passe par le juridique.
Un autre élément que le public ne comprend pas toujours, c'est que l'accroissement de la population mondiale crée à son tour des contraintes d'organisation, et qui ne sont pas les mêmes.
Oui, je l'ai mentionné dans le livre.
Absolument.
La démographie. C'est-à-dire qu'un restaurant ne se gère plus aujourd'hui comme il se gérait dans le passé.
Voilà.
Il y a une gestion des flux dans tous les établissements publics, que ce soit un musée, que ce soit un restaurant. Et cette gestion des flux est liée à la densité. Donc on commence à compliquer le système en disant, si vous voulez aller dans tel restaurant chez nous à telle heure, vous allez payer moins cher. Pour étaler un petit peu, pour fluidifier le trafic. Les musées sont ouverts la nuit. Ça a été initialisé à Londres il y a quelques années. Maintenant, c'est bien en France aussi. Vous prenez le train, vous avez combien de tarifs pour faire Paris-Caen? C'est fonction de l'heure, du jour. On a été condamné, entre guillemets, condamné à compliquer le système.
Voilà.
Pour s'ajuster à la démographie.
Voilà. Et de surcroît, pour ne rien arranger, tout le monde a des exigences différentes. Hein. Les actionnaires qui veulent un rendement financier, les employés qui veulent de la reconnaissance, les clients, ils veulent de la qualité des produits, du service, etc. Donc tout ça, naturellement, complexifie encore la chose.
Absolument, absolument. Le client est peut-être, en France, aujourd'hui le plus mal servi. Il est devenu un consommateur et on le gère comme un passager dans une compagnie aérienne, hein, le consommateur.
Vous dites une chose d'ailleurs aussi fort intéressante sur l'efficacité en ratio. Vous prenez un exemple d'une banque où on avait calculé que l'énergie individuelle de l'ensemble des salariés était en moyenne décomposée de la façon suivante. Un tiers d'énergie pour eux-mêmes, un tiers contre les autres et un tiers pour l'entreprise.
Absolument. Et on peut même rajouter, pas un quatrième tiers, mais si on fonctionne par des quarts, une partie pour son équipe, c'est-à-dire faire en sorte que mon équipe soit bien traitée, si c'est un chef d'atelier ou un contremaître, il va défendre son équipe, il va défendre son entité, et toutes les décisions auxquelles il participe doivent aller dans son sens à lui. Ce qui est très noble d'ailleurs.
Et en même temps, il y a aussi, alors là, donc des sources d'ambiguïté dans la décision. Vous en citez 15 dans votre ouvrage. Ça rajoute encore, naturellement, une difficulté supplémentaire.
L'ambiguïté, elle vient du souhait du décideur ou de l'organisme décisionnaire de ne pas tout dire. Parce que il y a des décisions qu'on peut pas complètement expliquer. Si vous travaillez dans mon organisation et que je souhaite la vendre dans 2 ans, je vais prendre certaines décisions pour orienter la rentabilité et le chiffre d'affaires de mon entreprise pour qu'elle soit vendable dans 2 ans. Mais je peux pas dire sur le marché que je veux la vendre dans 2 ans. Donc il y a des zones d'ambiguïté dans lesquelles s'engouffrent les équipes qui cherchent à redeviner. C'est une consommation d'énergie qui est considérable. Devinez ce que le chef d'entreprise a derrière la tête.
Alors, dans votre ouvrage, maintenant, on va aller au cœur du problème. Vous parlez d'une méthodologie en 7 étapes pour optimiser les talents de votre équipe, ou d'une équipe.
Oui.
Étape 1, éviter d'accepter trop de responsabilités différentes en même temps. Un commentaire là-dessus, rapide.
C'est pas tout à fait la méthodologie. Ça, c'est une conséquence de la méthodologie pour le décideur. La première grande étape de ce processus, c'est lancer la décision. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas lancer une décision, même dans une toute petite entreprise, dans une agence de voyage. Il faut une autorité pour lancer un processus de décision.
Alors,
cette étape-là, elle est fondamentale.
Mmh.
Faire en sorte que le vrai décisionnaire accepte de traiter un sujet.
Alors, si on décompose donc les 7 étapes que vous souhaitez mettre en lumière et que vous mettez en lumière dans votre ouvrage, pour le rappeler succinctement, quel serait le processus à adopter ?
Le processus à adopter, c'est bien traiter la préparation pour que le choix soit cohérent et permette d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire qu'une décision, en fait, c'est une mini-stratégie. Quand on parle de décision stratégique, je comprends pas, puisque c'est la même chose. Une décision, obligatoirement, se déroule dans le temps, puisqu'elle est volontaire et elle est traitée par des humains. Si c'est accidentel, c'est plus une décision. Donc, il faut bien préparer le choix. Et le choix, c'est la détermination de la stratégie qui permet d'atteindre un objectif. Pour être super clair, vous avez une situation, vous avez un objectif voulu, ou considéré comme voulu, qu'est-ce qu'on fait entre les deux pour l'atteindre ? C'est ça la décision. Voilà. Et puis, une fois que le choix est effectué, et s'il est cohérent et avouable, ce qui est à espérer, à ce moment-là, on va lancer la mise en place pour obtenir la meilleure motivation, la meilleure motivation et mobilisation, pardon, des personnes qui vont devoir le faire. Si on veut que ça soit bien fait, il faut bien les traiter déjà avant le choix. C'est pas parce que je vais interroger mon équipe sur une situation donnée, avant de faire le choix, que j'affaiblis ma position de force, que j'affaiblis mon autorité. Sinon, si j'ai un problème moi-même vis-à-vis de ma hiérarchie, je peux pas me permettre de discuter ouvertement d'une situation à traiter.
Bien sûr.
En fait, en clarifiant, on réorganise l'entreprise, on la réoriente vers plus de clarté, plus de transparence pour le bien de tout le monde.
D'accord. Et un point important pour toutes celles et ceux qui se frottent naturellement à l'international, c'est que les circuits décisionnels ne sont pas les mêmes selon naturellement aussi les pays, les cultures, etc. Qu'en tirez-vous comme expérience, vous, à titre personnel, vous qui faites beaucoup aussi dans ce domaine ?
D'abord, c'est passionnant de comparer la façon dont les décisions sont prises, de la façon dont elles sont gérées, mises en place dans tous les pays. Je connais pas beaucoup de pays. J'ai travaillé dans, vous l'avez dit d'ailleurs, 18 pays, mais surtout j'ai travaillé en Angleterre et aux États-Unis. Le système anglais et le système américain, ils sont exportables. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine qui veut travailler dans le monde entier, elle a un système de management qui fonctionne partout. Le système français, il fonctionne difficilement dans certains pays parce que la façon de gérer les décisions et notamment de les imposer dans des filiales à l'étranger ou des succursales ou chez des distributeurs, est pas toujours très très clair. Donc on n'a pas l'efficacité à l'étranger que on souhaiterait avoir comme chez nous. Le système américain, il est complètement rodé. Coca-Cola dans le monde entier, McDonald's dans le monde entier, Heinz ça tourne. Walt Disney dans le monde entier.
Oui, oui, ils ont tous une stratégie.
Ils ont un modèle, si vous avez, ils ont un modèle de management qui est mondial.
Voilà, et qui est rodé, bien sûr.
Qui est rodé. Oui, oui. Alors c'est lourd, c'est vrai que c'est lourd, mais ça fonctionne. Voilà.
S'agissant de la France, quel est le constat que vous faites et quelles observations souhaiteriez-vous faire à ce niveau-là? Le mal français en matière de circuit décisionnel ou de prise de décision?
Je pense qu'il y en a de deux types. La première chose qui fait perdre de l'énergie, c'est quand quelqu'un dit « c'est moi qui décide ».
Voilà.
Ça, je trouve ça assez
l'autoritaire.
Fou. C'est moi qui décide, donc vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Mm-hmm. Mais on le sait. Le patron d'une TPE, d'une PME, une société avec 3-4 personnes, il a le capital. C'est pas la peine de nous raconter tout le temps que c'est lui qui décide, on le sait.
Et on l'entend pourtant très régulièrement.
En fait, c'est presque une faiblesse. Je préférerais qu'ils disent « c'est moi qui gère la décision », c'est-à-dire que je vais faire en sorte que vous, mes collaborateurs, preniez une bonne décision. Philosophiquement, ce qui me plaît chez un décideur, c'est non pas qu'il prenne des bonnes décisions, mais qu'il fasse en sorte que ses collaborateurs qu'il a choisis, qu'il a formés et qu'il fait travailler, eux prennent des bonnes décisions. Ça, c'est un grand décideur. D'accord. C'est pas juste je décide tout, je fais du macro-management, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça, pour avoir l'impression, pour se conforter tout seul dans l'idée qu'il est le décideur, on le sait.
En tout état de cause, donc, c'est décision collégiale, et comme on le dit, et on essaie de vouloir faire repasser le message aujourd'hui, remettre l'humain au cœur du centre, au centre même d'ailleurs des décisions, mais c'est pas toujours évident. Donc.
Elle est collégiale dans la préparation. Mm-hmm. Et c'est là où peut-être... modestement, mon livre peut apporter une contribution. C'est vrai que les collaborateurs ont des talents, ils ont des plus-values, ils ont des qualités, ils ont des expériences, ils ont des formations qui est fondamentale pour être compétitif dans le monde entier, d'utiliser, d'optimiser, de fédérer. Mais après, le décideur tranche, aucun problème. Mais qui tranche en s'étant appuyé sur son équipe, parce que quand il va falloir mettre en place... Sinon, c'est son équipe qui va le retrouver.
On est d'accord. Bien, eh bien, Didier Durandy, merci et nos vœux de plein succès donc pour la diffusion merci. De votre ouvrage auprès des décideurs. Vous savez que ici sur We Do Biz et We Do Talk, nous avons beaucoup d'auditeurs qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, cadres, professions libérales. Nul doute qu'ils vont être intéressés bien sûr par votre ouvrage, dont je leur conseille bien sûr la lecture. Voilà, c'est fini. C'était donc Jacques Petit, We Do Talk. À un prochain rendez-vous donc sur We Do Biz, vous toutes et tous qui nous écoutez.